Donc, la quantité de données est phénoménale. On parle vraiment de près d'un milliard de spectres. C'est pas rien, hein? Puis en astronomie, bien souvent, hein, nos techniques consistent à comparer nos observations avec des modèles faits par ordinateur. Et les bases de données, les bases de modèles elles-mêmes sont très volumineuses. Donc, de corréler d'énormes échantillons de données avec d'énormes bases de modèles, ça va être grandement facilité par l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Chaque année, l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue au balado Les Remarquables de l'Université Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique, et j'ai le bonheur aujourd'hui de m'entretenir avec Laurie Rousseau-Neptune, lauréate du prix Jeune Diplômé 2024. Avant de commencer l'entretien, laissez-moi vous présenter les grandes lignes de son fascinant parcours. Professeure adjointe à l'Université de Toronto et détentrice de 3 diplômes de l'Université Laval, Laurie Rousseau-Neptune est la première femme québécoise autochtone à décrocher un doctorat en astrophysique. Elle a également été astronome résidente au télescope Canada-France-Hawaï de 2017 à 2023. Spécialisée dans l'étude de la formation des étoiles au sein des galaxies qui nous entourent, Mme Rousseau-Neptune a participé à la confection de CITEL, un instrument qui contribue à l'amélioration des connaissances sur l'évolution de l'univers et qui est aujourd'hui utilisé à l'Observatoire Canada-France-Hawaï. En 2023, elle a fait l'objet d'une série documentaire intitulée « Étoiles du Nord » et j'ai le plaisir de m'entretenir avec elle aujourd'hui. Laurie Rousseau-Neptune, bonjour!
Bonjour Jean-Sébastien, merci de me recevoir.
D'abord, j'aimerais préciser que nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Laurie, vous êtes officiellement lauréate du prix Jeune Diplômé de l'Université Laval. Félicitations. On se sent comment lorsqu'on reçoit cette belle nouvelle?
Ah ben écoute, c'est tout un honneur. Je m'y attendais pas du tout, puis je suis contente en même temps. Ça va me permettre de pouvoir parler un peu de mon parcours, puis parler de la série aussi. Fait que c'est une très belle occasion pour moi de partager ça avec le public.
Absolument. Laurie, vous avez grandi dans la région de Québec. Votre famille, du côté de votre père, vient de la communauté Innu de Mashteuiach, Pointe-Bleue, au lac Saint-Jean. Vous êtes la première femme québécoise autochtone à obtenir un doctorat en astrophysique. Et je tiens à en parler parce que vous êtes une pionnière. Vous avez d'ailleurs fait l'objet d'une série documentaire intitulée « Étoiles du Nord ». Dans cette série, vous dites que c'est en côtoyant la nature, plus précisément dans la réserve faunique Achapmouchouane, que vous avez eu la piqûre pour la science. Parlez-nous de cette relation que vous entretenez avec la nature et du rôle qu'elle a joué dans votre intérêt pour le domaine des sciences.
Oui, certainement. Dans le fond, quand j'étais jeune, mon premier contact que je me rappelle, c'est aller tenter d'écoler avec mon père. Il y allait à chaque automne, puis il m'amenait, moi et ma sœur, quand on était très jeunes, quand on pouvait même pas marcher sur ses épaules. Puis il nous apprenait déjà à regarder autour, à découvrir la nature, mais aussi à voir les petits indices qui nous permettraient d'être meilleurs chasseurs. Okay. Et ça, ben, ça a développé mon sens de l'observation puis ma curiosité.
J'y ai fait allusion précédemment, Laurie, mais j'aimerais revenir sur la série documentaire Étoiles du Nord, une magnifique série où l'on apprend les rudiments de l'astronomie à travers votre parcours. Les images sont à couper le souffle. La série a été réalisée par Patrick Bossé, produite par l'Office national du film, et vous y jouez un rôle majeur, tant devant la caméra qu'à la narration, à la recherche. Comment avez-vous apprécié l'expérience? Et j'aimerais également vous entendre sur la portée et les impacts du documentaire.
Ouais, je suis vraiment contente d'avoir pu participer à un projet comme ça, d'être entourée d'une équipe de tournage pendant quelques semaines à la chasse à l'Observatoire du Mont-Mégantic à Hawaï. C'est assez spécial de voir comment ils travaillent aussi par la suite pour le montage. Il y a tellement de travail sur ces genres de produits-là.
Ah oui.
Et pour moi, c'était unique, vraiment une expérience unique parce que ça me permettait de montrer ce qu'on faisait à l'Observatoire, puis aussi de montrer la participation des femmes. Parce que moi-même, j'ai été formée par une chercheuse de l'Université Laval, une chercheure, Kamel Robert, dans le département d'astrophysique. Et bien souvent, j'ai des stagiaires. Et d'ailleurs, il y a Justine qui fait partie de la série, qui fait un stage avec moi. Et donc, de pouvoir montrer 3 générations de femmes qui participent à la science. Pour moi, c'était unique. Puis aussi parler un peu de l'astronomie autochtone, qui a son rôle à jouer aussi dans l'éducation.
Absolument. Puis de faire de la narration, d'être devant la lentille comme ça, c'était une première expérience pour vous. Ça a été comment tout ça? Est-ce que vous étiez nerveuse à l'idée d'être aussi impliquée dans le projet finalement?
Oui, non, ça c'est sûr, c'est impressionnant. Là. On fait attention à ce qu'on dit, non? mais je fais des blagues, mais un petit peu, oui.
oui.
Puis on a tourné peut-être 10 fois plus hein, que ce qui est montré à la caméra par la suite. Donc c'est impressionnant. Puis en même temps, pour moi, c'était un peu de découvrir comment ils ont réussi à tout mettre les bouts ensemble pour faire la série par la suite.
Ouais, et puis voir le résultat final, hein, c'était impressionnant.
Ouais, ouais, oui, vraiment. Et ben, comme scientifique, c'est sûr que ça, pour moi, ça me fascine là, de voir l'équipe de tournage faire tout ça. Puis je me dis en même temps que j'aurais de la difficulté à faire ce genre de travail-là et que je suis bien dans ma science.
oui, effectivement, c'est une expérience qui peut nous en apprendre un peu sur nous-mêmes. oui, en tout cas, vraiment intéressant cette série-là. Et justement, on peut voir votre naturel et vos talents de vulgarisatrice. Alors, encore une fois, bravo.
Merci.
Et puisque j'évoque vos talents de vulgarisatrice, j'aimerais discuter de ce que vous faites à titre d'astronome. Dans vos recherches, vous étudiez la formation des étoiles au sein des galaxies qui nous entourent, grâce notamment à l'instrument CITEL, dont vous avez participé à la confection. D'abord, CITEL, c'est quoi?
Oui, CITEL, c'est un instrument qui a été conçu au Canada, qui est un imageur spectromètre. Donc, c'est un appareil qui prend à la fois des images et qui peut décortiquer ces images-là en spectres. Donc, pour chaque pixel, il y en a des millions d'une image, on obtient le spectre de la lumière, donc les différentes couleurs qui viennent d'un endroit, d'une galaxie ou d'un amas d'étoiles qu'on regarde. Donc, c'est un outil unique pour étudier des objets qui sont étendus, des galaxies proches, par exemple, c'est ce que moi je regarde, et de pouvoir détecter des milliers de sites de formation stellaire en un seul regard.
Et quand on parle de galaxies proches, on parle de... À quel point elles sont proches?
ouais. Bon, elles sont proches pour un astronome, là, mais juste pour vous donner une idée, là, dans le relevé scientifique que je suis en train de faire, on est limité à une distance, ce qu'on dit en astronomie, de 10 mégaparsecs. Et ça vous parle probablement pas. En fait, c'est environ 30 millions d'années-lumière. Donc, la lumière a pris 30 millions d'années pour se rendre de ces régions-là de formation stellaire jusqu'à notre télescope.
Incroyable. OK.
Oui. Oui, et certaines d'entre elles, certaines des étoiles qui font partie de ces régions-là, n'existent plus au moment où on reçoit la lumière.
Ben oui, absolument, parce qu'il y a un décalage de 3 millions d'années entre la lumière que l'on perçoit et la lumière qui a été émise originalement.
Oui, de 30 millions d'années.
30 millions d'années, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Voilà. Donc, ben justement, quand on observe les étoiles avec un instrument comme CITEL, elles nous disent quoi sur les origines et l'évolution de notre univers?
Oui, bien, la formation des étoiles, c'est un processus qui est crucial dans l'évolution de notre univers. Donc, depuis le Big Bang, cette espèce de soupe d'énergie et de particules, jusqu'à aujourd'hui, bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'univers a pris de l'expansion, formé des galaxies, formé des étoiles. Et ces étoiles-là sont au sein de la fabrication des éléments chimiques, des éléments plus lourds. L'univers qui était d'abord uniquement constitué d'hydrogène et d'hélium et un petit peu de lithium. Et donc, les étoiles sont ces usines de fabrication d'éléments, le carbone, l'oxygène, hein, qui sont autour de nous. Mm-hmm. Et plusieurs générations d'étoiles ont dû avoir contribué à cet enrichissement chimique-là pour qu'un système comme le nôtre, le système solaire avec la Terre, puisse se former un jour. Donc, étudier comment ça se passe, comment ça se passe avec... beaucoup de détails dans les galaxies qu'on voit très bien près de nous, ça nous donne une fenêtre unique pour comprendre tout ça.
J'aimerais profiter de l'occasion pour vous parler de cet événement rarissime qui se produira le 8 avril 2024. Je vous parle évidemment de l'éclipse solaire totale. Expliquez-nous d'abord ce phénomène et dites-nous comment nous pourrons l'observer.
Oui, bon, l'éclipse solaire totale qui va passer près de plusieurs grands centres au sud de Toronto, qui va croiser une partie de l'île de Montréal, vers le sud de Québec, donc Mont-Mégantic, entre autres, Sherbrooke. C'est un moment unique. C'est le moment où la Lune va passer devant le Soleil et va cacher la lumière du Soleil pendant quelques minutes à peine. Mm-hmm. Mais si on est sur la trajectoire de l'éclipse totale, ben on va pendant quelques minutes ne voir plus aucune lumière. Il va faire comme nuit en plein jour. Donc ça, c'est vraiment unique et spécial. Et je pense que c'est un événement qu'on doit vivre en famille. Il faut avoir des lunettes là, pour pouvoir l'observer, des lunettes spéciales pour okay. les éclipses solaires. Ou il faut encore... il y a la possibilité de concevoir des méthodes là, pour pouvoir l'observer indirectement sur du papier avec des boîtes de carton. Donc, préparez-vous un peu. C'est une activité oui, qu'on peut faire. Oui. On peut faire un peu de bricolage. Puis, ça va vraiment être spécial pendant ces quelques minutes-là de voir tout ce qui va se passer, les changements qu'on va pouvoir voir dans le ciel.
Et ça arrive à quelle fréquence pour avoir un ordre d'idée?
Ouais, mais
une éclipse solaire totale comme celle-là?
Oui, il y en a plusieurs, en fait. C'est juste que... annuellement, on peut en avoir à chaque année, mais elles vont pas passer dans notre coin de la planète tout le temps.
Okay, okay.
Et la trajectoire même de l'éclipse totale, c'est une toute petite trajectoire sur la planète, donc seulement quelques grands centres peuvent croiser cette trajectoire-là. Le 8 avril prochain, on va avoir l'avantage, au Canada du moins, de pouvoir voir l'éclipse partielle, même si on n'est pas sur la trajectoire de l'éclipse totale. Donc, partout au Canada, on va voir quand même une éclipse partielle. On va voir un petit coin du soleil qui se fait cacher par la Lune.
Mm-hmm.
Et pour ceux qui sont chanceux et qui vraiment se retrouvent sur cette trajectoire-là, mais là, le soleil va être couvert complètement et il va faire nuit pendant quelques minutes.
Et quand on parle de cette trajectoire directe, justement, quelles sont les villes ou le fuseau horaire, disons, qui sera touché
oui,
par ça?
Oui, ben, on va avoir Hamilton, par exemple, au sud de Toronto. Toronto est tout proche. Hein, le soleil va être couvert à 99 % à Toronto.
Ah, OK.
Oui. Ensuite, si on passe vers la pointe sud de l'île de Montréal, lac Mégantic. Ensuite, on passe par le centre du Nouveau-Brunswick. Il va y avoir une partie de la pointe de l'île du Prince-Édouard, la pointe aussi nord de la Nouvelle-Écosse et la partie sud de l'île de Terre-Neuve également. Donc, beaucoup de gens qui se retrouvent en fait sur cette trajectoire-là. Et puis, vous pouvez aller voir sur Internet exactement où elle se trouve. Et si votre petit village est tout près, ben peut-être que ça va vous donner la chance de prendre, prendre la voiture et vous rendre quelques kilomètres, parfois plus loin, pour être vraiment dans la trajectoire de l'éclipse totale.
Parfait. J'aime souvent parler du futur avec nos invités sur le balado, Laurie. Alors, si on se projette dans 15 ou 20 ans, ce qui est évidemment... une période très courte en astronomie, j'en conviens, mais comment entrevoyez-vous l'évolution de notre connaissance de l'univers? Peut-être pas l'évolution de l'univers comme tel, mais plutôt l'évolution de notre connaissance de l'univers.
Si je pouvais faire des souhaits sur les découvertes qu'on va faire. Avec les nouveaux appareils hein, qu'on est continuellement en train de développer pour améliorer nos techniques d'observation, c'est d'ailleurs en partie ce que je fais aussi à l'Université de Toronto, j'espère qu'on va pouvoir... en savoir plus sur les exoplanètes, par exemple, être capable de détecter leur atmosphère, voir qu'est-ce qu'il y a sur ces planètes-là et pouvoir en dire plus. J'espère qu'on va découvrir la nature de la matière sombre, qui est toujours un peu mystérieuse pour l'astronomie. Donc, cette matière qui est dans les galaxies, autour des galaxies, et qui fait qu'elle tourne d'une certaine manière. Et on sait qu'elle existe justement par la force de la gravité qui est associée à cette matière-là. Mais on n'est pas capable de la voir, d'où son nom, la matière sombre.
Okay.
Donc, si on peut connaître sa nature et pouvoir mieux la décortiquer, ce serait très bien. Et puis finalement, cette fameuse énergie sombre qui est autour de nous, partout dans l'univers, et qui est la cause de l'expansion de l'univers qui est, selon les dernières mesures, accélérée. Donc, cette énergie-là qui serait responsable de l'expansion accélérée de notre univers. Si on pouvait en comprendre un peu plus sur ça. Et je sais qu'il y a plusieurs télescopes qui travaillent justement sur l'observation de galaxies distantes, de la cosmologie qu'on appelle en astronomie, comme par exemple le télescope James Webb, vont nous amener des éléments de réponse certainement dans les prochaines décennies.
Parfait. Et si on aborde le thème de l'intelligence artificielle directement...
Oui.
Est-ce que l'intelligence artificielle, justement, pourrait avoir un impact important dans votre domaine, ne serait-ce que pour analyser la très grande quantité de données que vous colligez?
Exactement, oui. Ça va être un outil très utile. Même moi, avec les données de Citel, j'ai plusieurs outils que je développe pour les analyser plus facilement parce que c'est vraiment un énorme volume. Hein? Pour chaque observation avec Citel, on a 4 millions de spectres. Et pour le relevé signal qui observe les galaxies proches, on est à 30 31 galaxies et en fait, plusieurs observations de certaines d'entre elles ont dû être scindées pour faire une mosaïque. Donc, la quantité de données est phénoménale. On parle vraiment de près d'un milliard de spectres. Okay. C'est pas rien, hein? Donc, ça
donc,
prend
ça pourrait
outils.
Vraiment, c'est ça, ça pourrait vraiment intervenir favorablement pour faire progresser certaines connaissances
fait.
Dans le croisement des données, dans l'analyse des données, justement. Là,
tout à fait. Exactement. Puis en astronomie, bien souvent, hein, nos techniques consistent à comparer nos observations avec des modèles faits par ordinateur. Et les bases de données, les bases de modèles elles-mêmes sont très volumineuses. Donc, de corréler d'énormes échantillons de données avec d'énormes bases de modèles, ça va être grandement facilité par l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Parfait. Et je crois que vous caressez l'idée de concevoir un nouvel instrument dans les prochaines années. Qu'en est-il de ce projet?
Oui, ben bon, moi, c'est sûr que dans, côté instrumentation, je suis spécialisée avec les instruments de type imageur spectromètre. Donc, je vais continuer à travailler sur ce développement-là. À Toronto, j'ai mon laboratoire que je commence tout juste à meubler et à planifier nos prochaines activités. Puis l'instrument que je veux développer sera une combinaison de la technologie qui est utilisée dans CITEL et des détecteurs qui sont très récents, qu'on appelle des détecteurs quantiques. Leur petit nom, MKID, et c'est un acronyme anglophone, donc vous m'excuserez l'expression, mais c'est Microkinetic Inductance Detector. Et donc, ces détecteurs-là nous permettent de voir chaque particule de lumière arriver très précisément en temps. Et aussi, nous donnent de l'information sur l'énergie de chacune des particules qui arrivent. Donc, un peu comme de la spectroscopie, mais à basse résolution. Et ça, combiné avec CITEL, ça va nous permettre d'avancer encore plus loin et d'avoir ultimement, une très bonne résolution en énergie de la lumière. Et ça va nous permettre de regarder de la lumière de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, donc une très grande plage de longueur d'onde d'énergie. Et donc, nous permettre de collecter des informations sur des processus physiques très, très variés, que ce soit sur les régions de formation stellaire, ce que moi j'étudie, ou puis bien d'autres domaines, en fait, de l'astronomie. Donc, un instrument très polyvalent.
Je l'ai mentionné plus tôt, Laurie, vous êtes diplômée au doctorat en astrophysique. Pendant vos études à l'Université Laval, vous avez passé beaucoup de temps à l'Observatoire du Mont Mégantic pour vos recherches. Comment votre parcours universitaire a-t-il influencé votre carrière et est-ce que vous demeurer en contact avec certains professeurs ou anciens collègues de l'Université Laval?
Oui, tout à fait. Bien, en fait, il y a plusieurs de mes co-chercheurs dans le projet Signal qui font partie du groupe de recherche de l'Université Laval, que ce soit au niveau des étudiants ou du corps professoral. Et ma formation m'a permis de me rendre où je suis. Puis bien souvent, quand on parle aux étudiants en astronomie et qui veulent faire une maîtrise, un doctorat, on leur dit que c'est bien de voyager, hein, d'aller faire son doctorat dans différentes universités, sa maîtrise et tout ça. Puis moi, j'ai choisi de tout faire ça à l'Université Laval, à Québec. Puis je n'ai aucun regret parce que ma formation, justement, était très diversifiée de par le fait que je faisais à la fois de la science et de l'instrumentation, que je me présentais à l'observatoire et que j'étais moi-même en charge d'installer un instrument, de le calibrer, de l'ajuster et de faire moi-même mes propres observations. Et alors que quand on se présente, hein, sur le marché du travail, on a toute cette expérience-là derrière nous, ça fait de nous des chercheurs très qualifiés qui sont définitivement de bons candidats pour travailler, par exemple, dans les télescopes internationaux comme le télescope Canada-France-Hawaii. Donc, pour moi, d'avoir fait ce choix-là de rester à l'Université Laval pour avoir cette formation en instrumentation, ça a été payant et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai été engagée à Toronto.
Voilà qui termine notre entretien. Laurie, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Je rappelle que la série documentaire Étoiles du Nord est disponible gratuitement sur le site Internet de l'ONF et sur tout.tv. Merci du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et à nouveau, félicitations pour le prix Jeune Diplômé que vous recevez aujourd'hui.
C'était un plaisir. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Cet entretien avec Laurie Rousseau-Neptune, lauréate du prix Jeune Diplômé, a été réalisé le 19 février 2024 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.